Oh yeah, oh yeah, Corona, more happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Corona, quand veux-tu? Quand je vois toutes ces personnes mourir à cause de ces maladies, une maladie qui passe d'une épidémie à une pandémie. Quand je vois des innocents mourir à cause de ces maladies, ça me donne.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme Survivant Covid-19.
Pourquoi tu nous détruis? Pourquoi tu nous assassines comme ça? Oh, coronavirus, d'où viens-tu?
Survivant Covid-19, c'est ce programme de sensibilisation contre la propagation du coronavirus dans notre société, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement parce que nous serons ensemble avec nos consultants, nos invités qui sont là pour parler aujourd'hui du virus corona, si vous le voulez bien, de la Covid-19 et surtout des mesures barrières.
Je prie le bon Dieu de sauver la Chine. Je prie le bon Dieu de sauver l'Amérique, de protéger l'Afrique, de protéger le monde.
Malgré les mesures éditées par l'Organisation mondiale de la santé, par le gouvernement de la République, le constat est clair. La propagation est une vague grandissante. On peut se demander pourquoi, malgré tout cela, la pandémie du coronavirus sévit toujours dans notre société. Est-ce la faiblesse de l'application de ces mesures? Est-ce le comportement des citoyens? Tentative de réponse dans ce plateau survivant Covid.
Oh, oh non, oh non.
Pour en parler ce jour, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau des invités spéciaux. Nous avons sur le plateau M. Jundam Amadou, il est membre de la société civile. Il vient également analyser la situation avec nous dans le cadre de ce programme. M. Jundam, bonjour.
Bonjour, Raïm.
Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Comment est-ce que vous sentez dans ce studio?
Le plaisir est partagé. Le studio, j'ai l'habitude de ce studio. Ça veut dire que je suis chez moi.
Voilà, il y a également sur le plateau un journaliste qui est venu analyser la situation avec nous. Lui, c'est Mahmoud Tawet. Mahmoud Tawet, bonjour.
Bonjour, Raïm.
Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour analyser cette situation de pandémie du coronavirus, surtout dans l'aspect des mesures barrières.
Oui, c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être toujours présent dans vos studios chaque fois que je suis dans la belle cité de Fumban.
Et je dois dire que l'actualité depuis presque 5 mois, c'est le Covid. Et je pense que c'est une émission qui se doit d'être, parce que on est encore parti pour très longtemps avec cette actualité sur la Covid-19.
Sur le plateau, nous avons un technicien parmi les panélistes. Lui, c'est Jean-Denis Montpen. Il est point focal communication à l'hôpital de JC à Fumban. Il est venu éclairer notre antenne sur la situation actuelle. Jean-Denis Montpen, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de venir aujourd'hui parler de la COVID-19?
Bien, c'est un plaisir pour moi d'avoir une occasion, une fois de plus, pour rappeler, autrement dit, pour aider les populations à se mettre à l'écart de cette pandémie.
Voilà, se mettre à l'écart de la pandémie, c'est l'objectif majeur de ce programme, mesdames et messieurs. On revient donc pour entrer dans le vif du sujet, pour parler donc des mesures barrières. Voilà, commençons déjà par le technicien Jean-Denis Maupin. On va revenir sur les mesures barrières, les mesures éditées. On peut les énumérer si vous le voulez bien. On commence par là.
D'accord. En ce qui concerne les mesures barrières, que bon nombre connaissent déjà très bien, je pense que la première mesure, c'est le lavage régulier des mains à l'eau coulante et au savon. C'est le port systématique des masques de protection. C'est la distanciation sociale, c'est-à-dire lorsque vous vous retrouvez quelque part, il faut que chacun soit distant de son vis-à-vis d'au moins 1,5 mètre. À côté, il y a le confinement, c'est-à-dire on doit rester à la maison le plus longtemps possible et ne sortir que quand c'est nécessaire. Voilà. Si je peux m'arrêter ici, si on pouvait respecter ne serait-ce que les quelques mesures que je viens de citer là, je crois qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui.
Voilà, c'est notre préoccupation de ce jour, monsieur Joundam. Si ces mesures avaient été respectées, on serait donc pas là. Qu'est-ce qui, selon vous, marque ces mesures justifie donc l'évolution rapide de la COVID-19 dans notre société?
De prime abord, je dirais que cette pandémie, cette maladie a pris tout le monde au dépourvu. Que ce soit les techniciens de la santé, que ce soit les politiques, que ce soit les populations, cette pandémie a pris tout le monde au dépourvu. Ce qui fait que toutes les mesures prises ont été un tâtonnement. Parce que c'était des mesures qu'on prenait pour voir si ça pouvait arrêter l'évolution de la pandémie. Effectivement, c'est pourquoi de nos jours, il n'y a pas une mesure stricte, c'est-à-dire une mesure qu'on peut dire à 100%, cette mesure peut arrêter l'évolution, la propagation du virus, parce que cela nous a pris au dépourvu. C'est pourquoi à chaque fois, il y a des mesures prises, on augmente au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les politiques n'ont pas pris la mesure de la maladie. Pourquoi? Parce que les mesures prises, les mesures édictées, n'ont pas aussi pris le côté sociologique, le pan sociologique de la situation. Parce qu'on a pris les mesures comme si on était dans les pays occidentaux. Par exemple, le confinement. Le confinement dans les pays occidentaux a eu un effet et n'a pas eu d'effet chez nous parce que chez nous, nous n'avons pas les habitudes de confinement, de rester, on a le contact facile. Or, chez les occidentaux, par exemple, le contact n'est pas facile. Si je veux arriver chez mon frère, le technicien qui est sur le plateau,
Monsieur
Montpen, par exemple, je n'ai pas besoin de d'invitation, ou bien tout de, quand je le vois directement, je l'embrasse, on se salue. Or, chez les occidentaux, les mesures sont prises selon leur façon de vivre. Il fallait aussi que rentrer ici, dans le contexte africain, dans le contexte camerounais, dans le contexte du département du Nord, qu'on essaie de prendre les mesures par rapport à la situation, par rapport au concept, au contexte sociologique et surtout au comportement des uns et des autres. Voilà pourquoi certaines mesures n'ont pas eu d'efficacité.
Voilà, Mahmoud Awet, peut-on justifier cette évolution rapide de la COVID par la méconnaissance même du virus, selon vous?
Non, je pense que la propension actuelle, hein, c'est-à-dire que le nombre de personnes contaminées ne peut pas tourner autour de la méconnaissance en fait, du virus, puisque en matière de sensibilisation, en matière de stratégie de communication, je pense que le Cameroun a assez communiqué. Et je pense que également les autorités, les personnes en charge du volet santé, je pense qu'il y a eu quand même une forte mobilisation en termes de communication, en termes de B2B. Et je crois, enfin, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit mon ami Amadou. Je pense que il a un peu manqué de volonté politique. Parce qu'il a pris le cas de l'Afrique. Mais je dois lui dire qu'il y a beaucoup de pays où il y a eu le confinement et que ça réussit, qui sont des pays africains. Il y a eu au Sénégal où on a confiné les gens. Il y a eu au Gabon où on a confiné les gens. En Afrique du Sud, on a confiné les gens. On a confiné les gens en Afrique du Sud. On a reconfiné les gens en Afrique du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun, si je m'en tiens au dernier chiffre il y a deux jours, on est dans les 16 000. Et je pense quelque part, il y a eu un manque de volonté politique. On pouvait confiner les gens dans ce pays et éviter que la contamination aille crescendo.
Voilà, est-ce que Jean-Denis Mopane, on peut pas aussi parler d'un manque de volonté de la part de la population lorsqu'on parle de l'utilisation du masque facial? Vous pouvez faire un constat autour de nous, pour ceux qui utilisent encore le masque facial, même le lavage de mains parfois, on a comme impression que les gens ne sont plus rigoureux dans le respect de ces mesures.
Effectivement, les mesures, à mon avis, ne sont pas vraiment observées. Lorsque la maladie est apparue ici au Cameroun en mars dernier, immédiatement le gouvernement a pris des mesures et puis le Premier ministre est passé aux antennes pour citer des mesures qu'il fallait prendre comme un ordre, jusqu'à solliciter même l'appui de la force de l'ordre. C'est-à-dire que les mesures devraient être observées systématiquement et obligatoirement. Mais ce n'est pas ce que nous avons connu ici. Et c'était pas facile. C'était pas facile. L'habitude faisant seconde nature, c'est pas facile de dire à quelqu'un d'aborder un cache-nez pendant une heure de temps alors que il n'en est pas habitué. Bon, maintenant, il fallait que la communication, la sensibilisation précède cette mise, cette observation des mesures. Bon, nous avons fait des efforts. Vous savez, la maladie a surpris tout le monde, comme disait notre frère. La maladie a surpris tout le monde, que ce soit le personnel de santé, les politiques, les populations et tout et tout. Donc, ça veut dire que tout le monde est rentré à l'école. Pendant que le personnel de santé cherchait à mettre une barrière, il était aussi à l'école pour savoir ce que c'est que la maladie, comment est-ce que ça s'est contaminé, comment est-ce que, et le temps aussi, de passer à la sensibilisation. J'étais surpris, je croyais que c'est dans le nom que les gens n'avaient pas compris qu'il fallait vraiment respecter les mesures d'hygiène. J'ai fait un tour à Yaoundé en juin et j'ai traversé le marché des Toudis à pied. J'étais vraiment surpris désagréablement. Parce que c'était à peine que j'apercevais une ou deux personnes dans toute une foule avec un cache-nez. Je me suis dit que peut-être à Fumban encore, ça allait mieux. Bon, mais les populations, je dois vous dire que le pourcentage est très bas pour ceux qui osent observer ces mesures. Ce pourcentage est très bas. D'abord, les gens que nous envoyons sur le terrain pour la sensibilisation sont heurtés à beaucoup de problèmes. D'abord, on refuse l'existence de la maladie et quand bien même on croit à l'existence de la maladie, on demande au communicateur, celui qui se passe pour le communicateur, s'il a amené des cache-nez, s'il a apporté de l'eau pour se laver les mains, ou bien il dit seulement de la bouche. Pourtant, c'était pas à lui de fournir tout ce dont on avait besoin pour vraiment.
Est-ce qu'aujourd'hui, Amadou Jundom, on pourra encore parler d'un manque de sensibilisation alors qu'il y a eu toute une communication autour du Covid depuis le mois de mars?
On ne peut pas dire qu'il y a un manque de communication. On peut simplement dire qu'il y a communication, mais la communication n'a pas été faite dans les règles de l'art. Il fallait avoir une méthode. Il fallait commencer par informer. On a informé les populations, on a éduqué
plus ou moins les populations. On a aussi communiqué, mais dans la communication a eu un petit problème. Et par exemple,
à quel niveau,
au niveau, par exemple, de l'assouplissement de certaines mesures. Lorsqu'on dit que les bars et certaines places publiques doivent être ouvertes, et quand je parlais de la configuration sociologique de la population, nous sommes dans une société très croyante. Quand les populations disent « on a ouvert les bars et on a fermé les lieux de culte et on a laissé les marchés », où est-ce que, par exemple, dans les marchés, il y a une proximité entre les hommes et il n'y a aucune mesure au niveau des marchés pour essayer d'enrayer, d'arrêter cette maladie. Alors voilà pourquoi, sur le plan de la communication, les populations sont dubitatives. Que pourquoi les bars, dans les bars, on n'a pas vu des équipes descendre dans les bars pour voir si les mesures barrières ont été respectées. On laisse comme cela. Et puis, la population qui est très croyante se dit, mais comment entre le bar et la mosquée et l'église et la synagogue, qu'est-ce qui devrait être fermé? Est-ce le bar ou bien la synagogue ou bien la mosquée ou bien l'église? Voilà, sur le plan communicationnel, le citoyen simple va vous dire que non, il y a quelque chose en dessous. C'est pourquoi ils sont dubitatifs. C'est pourquoi leur comportement, au fur et à mesure, ils ne veulent plus respecter les mesures édictées. Par exemple, le lavage de mains. Un autre piège de la communication, un autre défaut de communication, c'est quoi? C'est que certaines personnes symboles, eux-mêmes ne respectent pas les mesures édictées. Par exemple, si tu as un chef de village qui ne respecte pas, et tout à l'heure, on va dire au chef de village de communiquer, d'informer la population, de dire à la population de respecter les mesures. Quand cette personne symbole ou bien un enseignant comme moi ne respecte pas les mesures, alors les populations vont se dire, celui-là, parce que même mon comportement est une communication. Voilà où l'ensemble de la population, les personnes symboles, et puis l'assouplissement des mesures n'a pas été bien pensé. Parce que cela a mis le doute dans l'esprit des populations.
Voilà, lorsqu'on a compris la dangerosité du virus Mahmoud Daoud, fallait-il encore d'autres mesures de contrainte pour que la population comprenne qu'il est urgent de respecter ces mesures? On a sensibilisé, on a communiqué, et comme l'a dit M. Maupin, la force de l'ordre également a été impliquée. Fallait-il des mesures de force pour que celui-là qui doit se prémunir du virus puisse respecter les mesures?
Évidemment, je pense que il fallait la contrainte. Parce qu'on a vu, comme j'ai dit précédemment, dans certains pays, il y a eu la contrainte. Et ça a freiné l'évolution de la maladie. Je veux dire, c'était des cas. Et vous voyez très bien que au début de la pandémie, malgré le fait qu'il y avait une communication, mais les gens qui venaient de découvrir un nouveau virus, tout le monde avait peur. Il y avait la psychose. Même en matière de port de cache-nez, moi qui vis à Douala, je vous dis, la première semaine, c'est la psychose. Que ce soit dans les ménages, que ce soit dans la rue, les gens avaient le cache-nez de manière spontanée. Les gens à la maison, vous voyez, les femmes avaient une psychose et nettoyaient tout. Avec l'eau de Javel, c'était devenu carrément la psychose. Mais le gouvernement a péché. Il ne fallait pas s'oublier. Il ne fallait pas s'oublier. Et vous avez vu également la cacophonie. C'est-à-dire que le manque de cohésion dans la communication gouvernementale. Le président de la République a dû, au cours de son intervention, instruire le Premier ministre à reprendre la parole. Vous avez vu qu'au sein du gouvernement, il y a toute une cacophonie. Le ministre de la décentralisation, qui sort un décret portant obligation de cache-nez, portant même en fait une amende, et qui, deux jours après, se fait rappeler par le Premier ministre et qui dit afin de revenir sur cette mesure. Par exemple, vous avez vu autre exemple que j'allais citer. On a vu au 20h30, si vous voyez bien le générique de 20h30, il n'est pas acceptable dans un pays que l'instruction, que le chef de l'État dise dans un discours que le port de masque reste obligatoire sur l'espace public et que ses collaborateurs n'arrivent pas à implémenter cette instruction. Si vous voyez bien, après le journal de 20h30, on passe le jingle où le chef d'État dit le port de masque reste obligatoire sur l'espace public. Mais si, c'est-à-dire que ce n'est pas acceptable. Alors qu'on aurait pu, à la contrainte, on aurait pu contraindre les gens à porter le masque. À porter le masque.
Voilà, Jean-Denis Moupen, vous qui êtes technicien, vous êtes régulièrement en contact avec les patients, vous êtes souvent sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation. Quel est, de manière globale, le comportement ou l'avis de ces populations vis-à-vis du respect des mesures barrières?
Bien, j'ai dit tantôt que le pourcentage de ceux qui osent coopérer à l'observance de ces mesures est très très faible. Le plus souvent, je vais prendre le cas de la structure où je travaille, à l'entrée de l'hôpital, à l'entrée de chaque service, il y a le dispositif de lave-main. Et à l'entrée principale, il y a un personnel qui a été détaché pour suivre, ou autrement dit, obliger tous ceux qui passent à se laver les mains avant de passer. Mais je vous assure que ce n'était pas de gaieté de cœur, parce qu'ils recevaient des injures à tout moment. Et s'ils n'étaient pas patients, peut-être ils se retrouveraient en train d'échanger des coups de poing avec les autres. Vous voyez quelqu'un qui est un responsable, qui arrive et qui force le passage, il ne veut pas observer. Le cache-nez, moi-même, parfois, j'allais appuyer ce monsieur pour dire, vous n'entrez pas ici sans cache-nez. Ce n'était pas facile. C'était jamais facile. Bien. Maintenant, l'autre chose, c'est que qui nous a beaucoup gêné en tant que personnel, quand la maladie arrive, elle fait peur à tout le monde, comme disait
Mahmoud.
Elle fait peur aux populations, elle fait peur au personnel de santé. Et tout de suite, là, le personnel de santé n'a même pas des moyens de protection personnelle. Ce qui fait que il reste. C'est pas facile de recevoir tous ceux qui se présentent à lui comme par le passé. Vous voyez, non? Parce que lui, il a peur. Bon, cependant, nous avons, puisque c'était du nouveauté, malgré cette difficulté, malgré ces obstacles, nous avons continué à sensibiliser, même maintenant, on continue à sensibiliser les gens. On parle, on refuse, on vous oblige d'une manière souple. Mais quand ce n'est pas possible, vous passez, on ne va pas faire la police. Parce que même la police n'a pas suivi comme moi j'ai pensé. Lorsqu'on a fermé les bars, là, et on disait qu'à partir de 18h, les bars devraient être fermés. Mais vous arrivez au bar, c'est la faute de l'autre même qui est en train de consommer. Quand on a chassé tout le monde, on dit que le port de masque est systématique. Vous voyez un responsable, un chef de l'armée qui se balade sans cache-nez, mais qui donne l'ordre qu'on contrôle tous ceux qui sont dans le véhicule qui est en train de passer. Donc,
mais il y a ceux qui nous ont laissé entendre que le cache-nez étouffait aussi. Que dites-vous à ceux qui pensent
ainsi? Très bien.
Et comment est-ce qu'on doit l'utiliser?
Ceux-là ont eu raison de le dire. Le port de cache-nez c'est quelque chose qui s'apprend. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans les services de l'opération, là où on est obligé de porter le cash. Mais au départ, ce n'était pas facile. J'étais toujours gêné comme ça. Mais lorsque je passe le message à ceux qui doivent porter le cash et qui posent des problèmes, comme vous le dites, qui disent que ça étouffe, je leur dis que ça étouffe. Mais l'étouffement du cache-nez et l'étouffement de la crise, quand vous êtes dans la phase de complication de la maladie, c'est deux mondes différents. C'est comme la fumée et la braise. C'est comme la fumée et la braise. Donc, il faut porter même comme comme ça vous gêne. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce qui pose problème selon vous, au-delà de cet aspect, ou de ceux qui pensent que le cache-nez aussi étouffe? Le plus souvent, on dit on ne nous a pas offert de cache-nez. Comment est-ce que vous analysez cette situation comportementale?
Effectivement, nous allons toujours pointer du doigt le gouvernement, simplement parce que c'est eux qui ont la charge de nous protéger.
C'est-à-dire?
C'est simple. Cela veut dire que le problème de cache-nez, l'État n'a pas pu contrôler la fabrication de ces cache-nez. Il fallait un contrôle systématique. Parce que dans le marché, on a des cache-nez avec des matières. Parce que je pense sous le contrôle du technicien, je pense qu'on ne fabrique pas un cache-nez avec n'importe quelle matière. Dans le marché, vous allez voir de toutes les couleurs et de toutes les matières. Quand ça étouffe, par exemple, un cache-nez fabriqué avec du tergal. Le tergal, c'est une matière synthétique. Et quand il y a de la chaleur, ça va essayer d'étouffer le patient. Et c'est pourquoi nous disons, tout à l'heure, Mahmoud a parlé de cacophonie. Au sommet de l'État, dans le gouvernement, ceux qui ont la charge de notre protection n'ont pas pu harmoniser la fabrication du cache-nez. Dernièrement, on nous avait dit que la SICAM, l'État, le gouvernement avait demandé à la SICAM de produire les cache-nez, qu'il y avait des petites et moyennes entreprises qu'on avait donné l'autorisation à fabriquer les cache-nez.
C'est vrai, on a aussi encouragé la fabrication artisanale.
La fabrication artisanale, voilà la cacophonie. Voilà d'où vient la cacophonie. Il fallait que les cache-nez soient contrôlés. Ça, c'est est-ce que n'importe qui peut fabriquer le médicament, monsieur le technicien? Je ne pense pas. N'importe qui ne peut pas fabriquer le bistouri. On ne peut pas fabriquer le bistouri n'importe comment, ou bien un médicament, ou bien le...
Malgré ces fabrications, monsieur Jundam, on constate qu'il y a toujours ceux qui n'utilisent pas ces cache-nez. Peu importe la qualité.
Effectivement, je vous l'ai dit ici que c'est parce que en amont, ceux qui sont chargés, les symboles par exemple, nous allons revenir sur le chef de l'État qui n'a pas porté de cache-nez même pour une seule fois, pour montrer aux populations qu'il fallait porter le cache-nez. Ça, c'est un symbole. S'il sort, par exemple, nous avons nos pasteurs qui portent le cache-nez. Quand je vais à l'église, je vois mon pasteur avec un cache-nez. Cela veut dire qu'il a pris la mesure de la maladie. Tout à l'heure, vous parliez de la dangerosité du virus. Sous le contrôle du technicien, on nous a dit que le virus a une capacité d'adaptabilité. Et il faut voir que nous attirons l'attention aux populations que ici dans le département du Nord, il y a trop de malades. Maintenant, tout le monde est malade. Il y a des morts. Qui ne sait pas que c'est la transformation du virus dans le département du Nord? C'est pourquoi nous attirons l'attention de tout le monde de porter le masque et de respecter les mesures barrières. Et à l'État, au gouvernement, d'harmoniser leur plan de lutte.
Voilà, l'autre mesure, Mamou Tawet, c'est la distanciation sociale. Tout à l'heure, M. Jundam parlait de la non-intégration des habitudes de chaque localité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu respecter ces mesures de distanciation sociale?
Oui, on n'a pas pu, parce que déjà, je pense que faut tenir compte de la situation socio-économique du Cameroun, hein. Oui, les autres aussi, parce que je pense que les politiques mises en place il y a très longtemps permettait d'anticiper sur deux, trois choses. Et que chez nous, il me semble qu'on est toujours rattrapé par certaines choses. On est toujours en train de courir. Il n'y a pas de projection au niveau de l'État. On ne projette pas. On va parler des sensations. Mais je pense également que vous avez vu qu'avec l'arrivée de la COVID, on s'est rendu compte que les pertes techniques au Cameroun, on en parle tout le temps et tout ça. Mais là, l'État s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un gros problème des plateaux techniques désuètes dans les hôpitaux. Et donc, on n'a pas pu monter d'un cran sur l'application des mesures des distanciations parce que effectivement on est dans un contexte socio-économique assez difficile. Et je pense que tout ça a contribué à mettre pratiquement l'État à genoux. Parce que vous avez vu, ils ont pris des mesures, mais ils se sont rendus compte que...
Mais on pourrait dire que c'est à choisir hein, entre l'économie et la vie, Mahmoud Daoud.
Oui, évidemment que la vie n'a pas de prix. Et je pense que dans la tête des politiques, vous savez aussi, enfin les politiques, la plupart du temps, ils sont également dans des sacrifices qu'on peut pas, on peut imaginer. Vous avez vu par exemple, qu'est-ce qui a motivé à ce que on puisse lever la mesure sur la fermeture des bars au détriment
de lieux de culte.
Au détriment de lieux de culte. Qu'est-ce qui peut motiver? C'est parce que justement l'État à un moment s'est trouvé asphyxié et comme on dit l'État se mince froid. Parfois il préfère aller droit dans le mur et que de ouvrir une brèche ou peut-être y avoir une tension sociale qui va peut-être chanceler à amener le pouvoir. Donc je pense que tout ça a contribué. Le fait que le Cameroun n'improvise pas, il n'y a pas de projection, tout ça contribue à ce que aujourd'hui on soit dans cette évolution continue de la pandémie.
Voilà, avec Monsieur Moupen-Jean-Denis, on parle donc du non-respect de la distanciation sociale. On constate qu'il y a toujours des rassemblements, que ce soit dans des événements heureux ou malheureux. Et l'autorité administrative est également sensibilisée, contrairement à ce que venait de dire Mahmoud Daoud. Il y a des communiqués. Par exemple, nous qui sommes dans la région de l'Ouest, des communiqués du gouverneur qui a d'abord interpellé les populations du Noun particulièrement pour ce qui est des cérémonies de Sadaka, selon ce communiqué. Et récemment également, il y a un autre communiqué qui invitait la population au respect des mesures de distanciation sociale lors des levées des corps dans les morgues. Pourquoi est-ce que tout cela ne sont pas respectés? Et quel est le danger à ne pas respecter ces mesures?
Avant de répondre à cette question qui concerne la distanciation sociale, je voudrais faire un petit rappel sur le port systématique du masque. Mm-hmm. Pour dire que quand vous portez votre masque, c'est votre vis-à-vis que vous protégez. Parce que si vous êtes malade, alors que votre vis-à-vis n'est pas malade, il est à l'abri de la maladie à 5%. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque vous portez votre masque, celui qui est en face de vous, si vous êtes malade, est protégé à 90%, donc il y a 90% de chances de ne pas faire la maladie. Et lorsque c'est votre malade qui porte son cacheté, alors que vous êtes toujours malade, il est plus exposé que lorsqu'il n'était pas, il n'avait pas de cacheté. Donc, comme pour dire que celui qui porte son cacheté protéger son vis-à-vis. Si vous êtes malade, vous avez votre cache-nez. Vous protégez votre vis-à-vis. C'est ce que les gens ont toujours ignoré. Bien. Maintenant, la distanciation.
Mais lorsque vous n'êtes pas malade, vous protégez vous-même. Si vous n'êtes pas malade.
Si vous n'êtes pas malade, vous protégez. Voilà. Vous portez votre cache-nez. Parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui est malade, mmh. là-bas de cache-nez, vous êtes quand même un peu protégé. Mmh. Mais lui peut vous contaminer.
D'une autre manière.
D'une manière facile, mmh. n'est-ce pas? Mais lorsque les deux ont leur cache-nez chacun, mmh. le malade comme le non-malade, et ça ne veut pas dire que toi qui as le cache-nez n'étant pas malade, tu vas faire la maladie. À 5%, tu es toujours exposé. Mmh. Oui, oui. Bien. La distanciation sociale, ça, c'est la mentalité de nos populations. Et comme le frère Mahmoud disait tantôt, le gouvernement a, pour moi, mis la charrue avant les bœufs. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, c'est passé. Les mesures qu'on a édictées, là, mmh. la fermeture des bars, le refus de regroupement à l'église, mais sans fermer les marchés. Je me souviens que en Espagne, par exemple, on avait fermé même les marchés. Hein? Par mois, on pouvait demander à un bloc dans la ville, n'est-ce pas, de faire le marché à un point donné en respectant toutes ces mesures-là sous le contrôle de l'autorité. Mmh. Mais chez nous, ici, là, on ne va pas à l'église, on ne va pas à la mosquée, on ne va plus au bar, mais on est tout le temps au marché. Je crois que ça n'a pas donné l'idée aux gens que vraiment la distanciation sociale devrait être bien observée. Mmh. Peut-être on a cru qu'on a dit ça pour le plaisir de dire. Parce qu'on n'a jamais dit, sauf si je me trompe, ici au Cameroun, que les gens n'aillent plus au marché. On n'a jamais dit ça. Donc, cette information-là, cette mesure-là a été éditée, mais les gens ont cru que c'était pour le plaisir de dire.
Voilà. Vous voulez réagir à la suite de M. Montpen concernant la distanciation sociale.
Effectivement, pour réagir par rapport à ce que M. Jean Denis venait de dire, c'est simplement que les mesures prises n'ont pas été pensées. Les mesures prises n'ont pas été pensées. Parce que si les mesures étaient pensées, on devait voir mettre en place des stratégies, comme il venait de le dire, qu'en Espagne, par exemple, les marchés étaient fermés. Mais les marchés étaient ouverts par secteur. Par exemple, on pouvait dire le marché de Sumban est ouvert le jeudi, uniquement aux personnes venant de Gindar. Ça allait diminuer le nombre de personnes dans les marchés. Par exemple, on pouvait dire que le matin à 8 heures, ce ne sont que les femmes qui sont là pour faire le marché. À partir d'une certaine heure, comme ça, pour essayer de réguler le flux de la population au niveau des marchés. Parce que on peut bien suivre les distanciations sociales, comme dans ce studio, comme dans les autres services, mais au marché, par exemple, sous le contrôle du technicien de la santé qui est ici sur place, on dit que même les objets que nous touchons peuvent être des canaux de transmission. L'argent, les pièces de monnaie que nous touchons. Donc c'est pourquoi les mesures ont été tâtonnées et n'ont pas été bien pensées. Il faudrait qu'au fur et à mesure, qu'on pense et qu'on essaie d'harmoniser ces mesures afin que tout le monde soit protégé.
Voilà, on va revenir d'un moment à l'autre.
Lave les mains, ne te fatigue pas. Tout dépend de toi, tu tueras Corona. Lave les mains, ne te fatigue pas. Tout dépend de toi, tu tueras Corona. Lave les mains à l'eau propre coulante. Tous éteignus sur le pli du coude. Désinfecte les